Eh bien, merci Seigneur pour cette soirée et que tu sois réellement élevé au-dessus de tout, au plus haut de tout, et que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Que tu puisses parler à nos cœurs et que nous puissions pleinement, Seigneur, t'aimer, t'adorer en toutes circonstances. Tu es le Dieu de l'impossible et nous savons qu'on peut compter sur toi, nous appuyer sur toi n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, puisque nous sommes tes enfants. Alors sois béni, Père éternel, pour cette journée, Saint-Esprit, et nous te glorifions pour toutes choses, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors, il est vrai que lorsqu'on m'a sollicité, quand l'équipe m'a sollicité pour intervenir aujourd'hui et demain, suite au message que j'avais apporté fin janvier, il est sûr qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne désire pas. Vous savez, quand on vous donne une information et que cette information, vous êtes susceptible de la rapporter et que la personne qui écoute l'information que vous avez rapportée doit y croire. Alors, vous êtes l'intermédiaire. Et puis, si l'information tarde à se réaliser, celui qui en porte la faux, c'est celui qui vous apporte l'information. Enfin, l'intermédiaire, pas l'initiateur. Donc, quand on est parti il y a maintenant 15 ans et qu'on était à Parole de Vie, Alain, 15 ans, des paroles et des promesses ont été données sur cette église. OK. Sont-elles toujours d'actualité? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? On a le droit de se remettre en question. Le problème, c'est que quand vous faites partie de celui qui entend quelque chose et qui la rapporte, eh bien, vous dites, en l'occurrence, j'avais reçu des choses de la part de Dieu et ça ne s'accomplit pas dans le temps comme on voudrait ou difficilement. Donc on se dit, mais tu n'as rien entendu en fait, ou tu n'as rien compris. Et on se remet en question dans le côté négatif. Alors, je connais les promesses, et vous les connaissez les promesses qui ont été données dans cette église. Elles sont toujours oui, amen. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai relu un peu aussi la fin de Marc 16, quand il donne un objectif à l'église. Voilà, en mon nom, vous prêchez l'évangile, les baptiserez, puis après, à ceux qui croiront, voilà les miracles qui accompagnent. Et c'est devenu pour nous quelque chose de... ça fait partie de la Bible, mais on n'y prend même pas cas, on n'y croit même plus. D'ailleurs, c'est là où j'ai regardé qu'il est dit, en mon nom, donc ça commence par « vous chasserez des démons », donc c'est quand même important. Il y a combien de temps en arrière qu'on n'a pas vu un démon courir? Une délivrance, une libération, alors qu'à l'époque, ça fusait dans tous les sens. Mais on va pour expliquer pourquoi. Après, il est dit « vous parlerez de nouvelles langues ». Et ça m'a intrigué parce que les nouvelles langues, ce n'est pas celles qui étaient sur Terre, hein. Sinon, ce ne serait pas des nouvelles langues. On est d'accord? Ça, je ne l'avais pas lu, ça, comme ça. Vous parlerez deux nouvelles langues. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas dans l'erreur quand on parle en langue. Ça rassure quand on intercède. Et puis, si jamais on saisit un serpent ou on boit une boisson mortelle, et là, on ne prêche jamais ça. On court. Parce que quelle idée, moi, j'aurais d'aller choper une vipère? Mais si c'est la vipère qui vient à moi? Parce que généralement, les serpents, quand ils viennent à vous, c'est pour vous attaquer. Sinon, ils fuient. Mais s'ils viennent t'attaquer, tu fais quoi? Tu fuis. Or, normalement, selon Jésus, on a le pouvoir d'attraper ce serpent et de le corriger, de lui faire la fête. Et puis si jamais on nous entourloupe, et même si on manque de discernement et qu'on boit quelque chose qui va nous faire défaut, d'accord? Un sorcier qui se balade, on ne sait pas, hop. Normalement, on est tranquille, selon la parole de Dieu, mais faut-il encore y croire? Et ça m'a remis en question. Et j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai grandi avec mon épouse dans cette église, donc ça fait longtemps qu'on est là. Et je dis, mais elles sont où les promesses que tu m'as données? Et je veux bien comprendre, frères et sœurs, que certains sont dégoûtés par les prophéties. Moi, je veux bien vous croire, puisqu'il dit, elles sont où les promesses? On ne les voit pas arriver. On dit, alors ça remet beaucoup en question le Saint-Esprit, puisqu'on parle du Saint-Esprit, et c'est quand même lui que l'on honore. Alors, écoutez-moi, pas aujourd'hui ni demain seulement, hein, c'est tous les jours, D'accord ? Et je dis, Saint-Esprit, c'est quand même toi qui parles. C'est quand même toi qui nous mets en avant. C'est toi qui nous porte. C'est toi qui nous fortifie, qui nous encourage. Et nous, qu'est-ce qu'on devient ? Alors, c'est toujours un problème d'être un porte-parole. Mais quand Dieu décide, il décide. Il fait comme ça. Alors j'ai réfléchi, parce que quand je suis intervenu fin septembre sur les Goliaths, l'Église s'est levée comme un seul corps, une même âme. Alors, c'était merveilleux. Et puis, quelque temps après, le Seigneur me montre que le Goliath s'est relevé tranquille. Je dis, mais on lui a botté le train, lui. Je dis, mais comment il s'est relevé sans rien? Je dis, il y a un souci. Même les méchants ressuscitent. En gros, c'est ça. Hein. Nous, on ressuscite en Christ, mais même les esprits mauvais ressuscitent dans ce cas. Et donc, j'ai travaillé. Je dis, Seigneur, parle-moi, je t'en supplie. Ne nous laisse pas comme ça. Il faut qu'il y ait une réalité. Il faut qu'on comprenne exactement l'attitude que l'on vit. Pourquoi l'Église, entre guillemets, a abdiqué? Et je répète quand même la pensée qu'avait reçue notre frère Jérémy, tu te souviens, au piano, quand il disait, vous avez déposé les armes, maintenant, il faut quand même les reprendre. Mais pourquoi? Il faut d'abord comprendre pourquoi les armes ont été déposées avant de les reprendre. Parce que si c'est pour les redéposer 15 jours après, ça va être un cycle infernal. De la même manière que si le Goliath se relève tous les 15 jours, on va souffrir, les frères et sœurs. On va souffrir, et ce n'est pas le but. Le but, c'est que nous soyons des témoins de la puissance du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sur 120 personnes et qui s'est répandu sur toute la surface de la terre, dont nous faisons partie. Et nous sommes garants et nous sommes responsables de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Nous sommes responsables que le Saint-Esprit est venu sur nous parce qu'il a décidé de s'investir en nous. Donc, s'il a décidé de s'investir en nous, c'est qu'il nous a trouvés propices à pouvoir parler de lui et de le laisser surtout agir à travers nous. On est simplement des instruments. Mais qu'est-ce qui fait qu'on faillit? Où sont les démons qui fuient? Où sont les malades guéris? Où sont ceux qui sont malades, qui boivent un poison et qui en subissent les conséquences alors qu'ils devraient être guéris? Normalement, j'en viens même à discuter dans ma tête. Le médecin vous prescrit un médicament qui n'est pas bon, qui n'est pas compatible. Logiquement, c'est ça la boisson que tu prends. Elle ne doit pas faire effet. Vous me suivez? Un médecin te donne un médicament, mais les effets secondaires, il y en a tellement des fois, il y en a plus que... Donc il dit, oui, mais pour la maladie, prends-le. Mais puis derrière, tu as plein de choses. Eh bien, c'est ce que j'ai compris cet après-midi. En relisant, je ne sais pas, le Seigneur m'a ramené dans Marc 16, il dit, mais quand tu prends un truc que tu n'es pas au courant, tu ne le fais pas consciemment. Donc l'ennemi, à travers le médicament, va encore détruire, sauf si tu te lèves et tu dis, je refuse tous les effets secondaires. C'est une prise de décision. Mais on va comprendre quelque chose, parce que Dieu dit toujours la vérité, nous révèle toujours la réalité. Donc le titre... En gros, s'il fallait donner un titre, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est « Qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu ?» Et si on réfléchit à ce titre, parce que c'était un soir, à la nuit, à 3 heures du matin, vous savez, le Saint-Esprit, quand il vous casse les pieds, je dis deux fois, je dis « Mais laisse-moi dormir !» Non. Moi, j'ai dû me lever, prendre le crayon à papier et écrire « Qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu ?» Puis après, ça travaille. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire, en fait... Il va y avoir des combats que Dieu nous demande de mener, je dis bien ceux que Dieu nous demande de mener, qu'il a déjà vaincu. En fait, c'est faire quelque chose sans le faire. Et d'ailleurs, la Bible dit, tout ce que vous faites, c'est moi qui le fais à travers vous. Donc en fait, quand il y a un combat, alors prenons l'exemple de la maladie, elle est effective, c'est un effet secondaire. Le Seigneur te dit, lève-toi, combat l'effet secondaire, parce que je l'ai déjà vaincu. C'est la finalité qui est importante, ce n'est pas le départ. Quand vous allez voir le médecin, vous êtes malade, mais vous y allez avec la pensée d'être guéri. Vous me suivez? Quand vous allez consulter Dieu, prier Dieu parce que vous avez un besoin, et Dieu dit, demandez et vous recevrez. Mais pourquoi le Seigneur dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal? Parce qu'en fait, vous y allez avec l'éventualité que tu puisses intervenir. Alors, le Seigneur a horreur de ça, le Saint-Esprit, ça pour moi, c'est un mépris pour le Saint-Esprit en lui disant, éventuellement, Saint-Esprit, selon la parole, pourrais-tu me guérir? Il dit non. Non. Ce n'est pas une éventualité pour moi, c'est oui ou non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient du diable. Donc c'est l'intermédiaire qu'il faut comprendre. Pourquoi les tièdes sont rejetés? Les tièdes, c'est ceux qui se présentent devant Dieu avec l'éventualité de pouvoir partir s'il ne répond pas. Donc, qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu? Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Tu as déjà une résultante. Vous aurez des tribulations. Donc, hein, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous aurez des tribulations dans le monde. Écoutez bien, Jésus sait parler français, il n'est pas comme moi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un autre lieu où il n'y a pas de tribulation. Et c'est là qu'il va falloir qu'on comprenne ce que Dieu veut dire par le Saint-Esprit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je l'ai vaincu déjà. Donc, qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu? Parce que quand vous recevez une parole de Dieu, je vous en supplie, et ça c'est un conseil, parce qu'au bout de 40 ans, je commence à avoir quelques petites prémices de compréhension. Quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, il faut toujours que la Bible vous le confirme. Donc j'ai dit, Seigneur, qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu? Je veux le trouver dans la Bible. Et il n'a pas fait ça tout de suite. Hein. Jean 16, 33, voilà. Donc, l'Église a abdiqué. Pourquoi? Et là, encore le Saint-Esprit dit, mais tu vas parler à l'Église du Tabernacle, mais sache que le problème, il est dans plein d'Églises. Vous savez comment j'ai compris ça, comment j'ai reçu ça? Je suis en train de refaire ma piscine, parce que ma piscine, elle était toujours peinte. Et tous les 3 ans, il fallait la refaire parce qu'il y a des cloques. Et moi, j'en ai marre. Refaire la peinture. Alors, je me suis dit, c'est peut-être parce que je ne mets pas les bons produits. Or, j'entends, dans l'entourage de ceux qui ont des piscines en béton, qu'ils ont exactement le même problème que moi. Et le Seigneur me dit, t'entends? Toi, tu vas résoudre ton problème parce que c'est ta piscine. Eux, il va falloir qu'ils résolvent leur problème parce que c'est leur piscine. Et Dieu m'a donné une solution pour moi, charnellement parlant. Mais il dit dans l'Église... C'est exactement dans le corps de Christ qui se passe dans diverses églises différemment. Et là, pourquoi l'Église a abdiqué ou a déposé les armes? Et ça, c'est une prise de conscience de la situation actuelle de l'Église. Il y a une opposition spirituelle dans les lieux célestes qui se révèle sur la terre et dans l'Église. Le Saint-Esprit est venu combattre l'esprit religieux et l'esprit de contrôle. Mais ça, on le verra ça demain. C'est juste un prémisse. L'esprit religieux est manifesté par le roi Saül, l'esprit de contrôle manifesté par Goliath. Et ça, on verra demain. Mais, pourquoi la dernière fois, il y a déjà 3 ou 4 mois, Dieu nous avait donné un rendez-vous dans la vallée des térébintes? Parce que quand Dieu donne un rendez-vous, ce n'est pas pour nous faire poireauter. Il nous précède dans un lieu. Quand Dieu nous donne un rendez-vous, il y est déjà. Il y est déjà. Mais il y est sous 2 formes. Et c'est ça la clé. Il y est avec nous ou il y est sans nous. Mais Dieu est toujours au rendez-vous dont il nous donne. Vous m'entendez? Si Dieu dit, je vous donne rendez-vous à tel endroit demain matin, à 4 heures du matin, tu vas là-bas. Si Dieu te dit, lui il y est. Si tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. Mais lui il y est. Avec ou sans toi, il y est, même s'il est tout seul. Donc, la vallée des térébintes ou la présence de Dieu dans l'onction. La vallée des térébintes ou la présence de Dieu dans l'onction. Éphésiens 1, verset 4, et ça c'est un verset clé aussi que quand je l'ai reçu, j'ai dit, mais bizarre. Vous savez, nous on pense qu'on est élu la prédestination pour le salut. C'est un fait. Mais là, il dit bien en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, donc avant que tout soit créé, non pas pour faire ceci ou faire cela, créer des œuvres, créer des églises, guérir les malades, combattre les démons. Non, il ne dit pas ça, hein, le Seigneur. Il dit, je vous ai créé pour que vous soyez saints et irréprochables devant lui. Or, il y a d'autres traduction qui disent dans sa présence. On va le lire dans sa présence. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables dans sa présence ou devant sa face. Et c'est là la clé. C'est à partir de là que tout va découler et que Dieu fait une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas, celui qui se souille et celui qui se sanctifie. Et ce que Dieu m'a demandé, il m'a dit, ne te compare pas aux autres. Ne surtout, ne rentre pas dans le jeu de la comparaison. Si tu rentres dans ce jeu-là, tu vas te condamner tout seul. Tout seul. Ou alors, parce que comment ? L'orgueil va te condamner si tu te crois supérieur, et cette fausse humilité va te condamner parce que c'est la crainte, la peur, tu es un incapable, et ceci. Dans les deux cas, on est mort. Parce qu'il est très rusé, l'ennemi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, que se passe-t-il lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, dans son sanctuaire, dans le lieu très saint ? Parce que c'est ça, la présence de Dieu. Vous savez, il y a des choses que l'on dit souvent, et on ne se rend même pas compte de ce que l'on dit. Attirons la présence de Dieu ou venons et rentrons dans la présence de Dieu. Ça sous-entend qu'on en est sorti. On parle combien de fois ? Rentrons dans la présence de Dieu. Mais quand vous commencez à réfléchir, vous dites, mais là je suis en décalage avec ce que Dieu a fait et veut faire de moi. Parce qu'en fait, nous sommes censés être morts depuis Pâques, ressuscité, et le Saint-Esprit nous a donné par le sang de Jésus-Christ un accès libre dans le sanctuaire. Donc ça veut dire qu'en fait le rendez-vous de Dieu, quel qu'il soit, à quel que soit le moment de la journée ou le lieu ou le problème, c'est dans le sanctuaire. C'est ça le rendez-vous de Dieu, c'est d'être dans sa présence constamment. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Je dis bien normalement. Mais voilà que souvent, on dit, Seigneur, j'ai quelque chose à faire à l'extérieur. Je reviendrai éventuellement sous les coups de 17 heures. Et le Saint-Esprit qui dit, si tu reviens. Alors, je ne donnerai pas une vision, parce qu'il n'y a pas le moment, une vision du squattage du temple de Dieu. Vous savez, quand on vit à plusieurs dans une maison. Voilà. J'ai reçu une merveilleuse vision, mais c'est... Et j'ai dit, mais alors quand elle me parle à moi d'abord, j'ai dit, mais c'est comme ça que je me comporte avec toi, Seigneur, en colocataire, chacun sa chambre. Ben, c'est ça. Hein. Nous sommes dans le lieu de la lumière, de la révélation, de l'autorité divine, de la puissance du Saint-Esprit, et rien de souillé, d'impur, de méchant, de ténébreux ne peut s'y trouver. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous vous tenez dans la présence de Dieu, saint et irréprochable, ça a sa valeur. Hein. La sanctification, la sainteté de Dieu, c'est Dieu qui nous rend saints parce qu'il voit notre obéissance à travers la parole de Dieu. Saint, ça veut dire nickel chrome. C'est-à-dire que n'importe qui sur la terre ne peut venir en disant, il y a une tache sur toi. La sanctification fait que si quelqu'un vient nous condamner, puisqu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, logiquement, s'il y a une tâche, c'est qu'elle vient de quelque chose que l'on a fait, qui a sali, qui a souillé le vêtement. Ok ? Ça s'appelle un péché. Donc, si on se tient dans la présence de Dieu avec un péché, je vous garantis que le Saint-Esprit ne va pas vous laisser tranquille. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe quand il commence à titiller en lui disant « Ce que tu as fait, Gabi, ce n'est pas bon. » Qu'est-ce qui se passe, à votre avis ? Qu'est-ce que je fais, moi ? J'ai un rendez-vous plus tard, Seigneur, je sors. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rester dans la présence de Dieu lorsqu'il y a quelque chose qui déplaît au Seigneur. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui déplaisent au Seigneur. Et on prend une habitude qui devient comme ça, habituelle, hop, on s'en va, comme ça, on n'est plus repris par le Saint-Esprit. Et on met le péché ou la situation sous le tapis. Mais c'est toujours réel. Le problème, lui, est toujours attaché à nous. C'est pour ça que Dieu a dit à Caïn, domine sur le péché. Domine sur le péché. Il couche à ta porte, domine, nettoie-le. Parce que Dieu a dit, je ne pourrai pas rester avec toi tant que ce problème ne sera pas résolu. Et dans l'Église, tant que certains problèmes personnels qui n'incombent qu'à chacun d'entre nous, qui sont de notre vie, qui n'ont pas à être révélés sur la place publique, sauf s'il y a un démon et qu'il prend la fuite. Mais il y a plein de choses dans nos vies, frères et sœurs, je vous le dis ouvertement, de la part du Seigneur, comme je l'ai reçu, il y a des problèmes dans nos vies que nous ne voulons pas croire ou dire « c'est pas grave ». On va dire « c'est pas grave ». Non, ce qui est grave pour Dieu est grave aussi pour nous, puisque ça peut être amené au salut, ça. Ça peut être au salut. Vous savez, qu'est-ce que c'est que des vains discours? Quand Paul dit « ceux qui font des vains discours n'hériteront pas du royaume de Dieu oh, », c'est pas grave. Vous jugez une situation, vous critiquez une situation, c'est pas grave. Ben, selon Paul, vous n'héritez pas du royaume de Dieu. Hein. Mais le Saint-Esprit étant là, il vous rappelle en disant « si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas ». Donc, nous sommes dans la lumière. Tout ce qui est péché, Dieu dit, je le mettrai sur les toits et ça sera crié, c'est Matthieu 9 qui dit ça, ou 10, tout sera connu et nous rentrons dans un temps, dans les derniers temps où Dieu est en train de juger l'Église, et ça, je ne comprends pas pourquoi beaucoup refusent d'entendre ça, mais moi, je n'ai pas peur d'être jugé, parce que je préfère que Dieu me juge tout de suite et que je me repente maintenant, afin que j'aie la vie éternelle. Parce que quand je me présenterai devant Dieu, ça sera trop tard. Quand on sera devant le tribunal de Christ, ça sera trop tard. Donc Seigneur, si j'ai un problème, c'est maintenant que je veux le savoir. Et taillade, hein, secoue-moi, hein, Orangina. Il faut que tu y ailles, hein, parce que je veux, moi, me repentir. Hein. Je veux que tu me dises ce qui ne colle pas dans ma vie, parce que je veux me présenter devant ta face, saint et irréprochable. Donc je vous dis rien. Dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, là, je vous garantis qu'avant l'enlèvement, il y a beaucoup de choses que Dieu va régler dans l'Église, hein, parce qu'il a décidé d'épouser une épouse sans tache ni ride. Hein. Donc, nous sommes l'épouse. Mais quand il va regarder, il va dire, « Oh Gabi, tu as une belle tache. Ça fait longtemps que je t'ai dit de la passer à la machine. Tu veux pas? Tu peux pas rentrer dans mon mariage. Hein. Ça colle pas, là. Non, mais faut pas exagérer, Seigneur. Non, 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 non. C'est comme ça. Alors, 1 Samuel, et voilà une clé. Alors, moi, je n'aime pas le mot clé parce que ça veut dire qu'avec ça, on ouvre toutes les portes. Non, une pensée, une compréhension, une révélation, une explication, ce que vous voulez de la part de Dieu, de la part de Dieu. Il est écrit dans 1 Samuel 5, 2, 24. Et ça, quand j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi les Goliaths se lèvent? Pourquoi les Goliaths se lèvent? Pourquoi les Goliaths se lèvent? Vous savez, quand vous allez voir un médecin, et parce que vous êtes grippé, souvent on m'entendait dire cet exemple, vous allez voir parce que vous avez une grippe, et puis il prend le médicament, et puis ça fait effet, 15 jours après vous retombez malade, vous allez retourner voir le médecin, le médecin dit, est-ce que tu as pris le médicament? Oui. Mais alors qu'est-ce qui se passe pour que tu te tournes? Et il faut chercher la raison. Donc, pourquoi le Goliath se relève sans arrêt? Et là, l'explication, elle est claire. C'est pour ça que Éphésiens 1, 4 prend tout son sens. Il est dit, 1 Samuel 5, 2 à 4. Il faut savoir, le contexte, c'est que Élie avait 2 fils, il était sacrificateur, Samuel était petit encore, et puis les 2 fils d'Élie, c'était des bandits, des voyous, fils du pasteur numéro 1, si vous voulez, fils du pape. C'était le numéro 1, hein, le sacrificateur Élie. Et il laissait faire, et il laissait faire, et il savait, que ses offices faisaient des âneries, mais il couvrait. Il couvrait. Attention, attention, quand on couvre le péché de nos enfants et qu'on leur, on les, j'ai pas dit corriger, les reprendre. Attention, ouais, mais c'est mes enfants, je porte les. Oui, d'accord, ok. J'ai pas dit corriger, j'ai dit leur dire que ce qu'ils font, Dieu n'accepte pas. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils sont responsables. Donc, à ce moment-là, ils décident de faire la guerre et ils décident d'embarquer Dieu avec eux. L'arche. Parce que symboliquement, l'arche présentait la présence de Dieu. Et, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Enfin, Dieu, il est l'arche, peut-être, mais Dieu n'était plus dans l'arche à ce moment-là. Enfin, façon de parler. Il ne bougeait pas. Il était dans l'arche, je me reprends. Il était dans l'arche, mais il n'intervenait pas. Si bien qu'à un moment donné, les Philistins ont mis une raclée à Israël, la déconfiture. Les 2 fils sont morts et l'arche a été prise. Donc on amène l'arche Il est dit, après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Dagon, c'est leur dieu officiel. Et pour eux, c'est le diable, c'est pareil. Enfin, pour nous, c'est le diable. Eux, c'est leur dieu officiel, c'est leur dieu tout-puissant. D'accord ? Donc, ils le placent, l'arche de l'Éternel, aux côtés de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens, donc les habitants de la ville, qui s'étaient levés de bon matin, je pense pour aller prier, adorer, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Pas la face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel. Personne n'a rien fait, personne est intervenu, mais vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Donc ils le redressent. Le lendemain, encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et ne lui restait que le tronc. Ça veut dire qu'en fait, il ne pouvait plus le redresser. Il était cassé en 1000 morceaux. Et c'est, il est dit que la tête est tombée et les bras sont tombés. Dieu n'écrit pas n'importe quoi pour dire c'est une histoire à raconter. Chaque détail que vous lisez dans la Bible a un sens énorme. C'est pour ça que vous pouvez lire la Bible constamment, 1000 fois, et 1000 fois le verset est révélé différemment. Dans la traduction hébreu, exacte, il est dit que Dagon gisait sur le sol. Cela veut dire qu'il était étendu, couché, sans pouvoir se mouvoir. Nous, on voit une statue, on pense à l'église, que je ne nommerai pas, en pierre, tomber, s'éclater. Donc on voit des morceaux de cailloux. Et ça, c'est charnel, parce que nous avons cette mauvaise habitude de toujours analyser une situation spirituelle par le charnel. C'est un réflexe. J'ai mal à la tête, prends un efferalgan. C'est le réflexe d'une situation spirituelle traitée dans le charnel, constamment. Donc nous, on voit dans la lecture, comment vous imaginez, si vous faites un film là, vous voyez comme moi, une statue qui s'est cassée la figure, parce que réellement, c'était une statue en pierre. C'est un fait. Il n'y a pas de... Mais spirituellement, ce n'est pas une statue en pierre que l'on doit voir. C'est le diable qui tombe aux pieds de Jésus. La première fois, il tombe, mais qui est venu la relever ? Bah, leur prêtre, leur adorateur. Nous, on dirait, qui a relevé Goliath ? Bah, ceux qui sont avec lui. On pourrait dire spirituellement les démons, les esprits impurs, tout ça. Parce que la première fois, il a été redressé dans la présence de Dieu. Personne ne tient. Donc, ils ont joué avec ça. Et l'ennemi a voulu essayer de combattre le Seigneur, comme quand dans le désert, pendant 40 jours. Et au bout des 40 jours, Jésus a été tenté et il a répondu par la parole. Mais Satan, il était bien à côté de Jésus pendant 40 jours. Bon, je n'ai pas d'ânerie là quand même. D'accord ? Mais Jésus, lui, il n'a pas bougé. Hein, et il a répondu quand il fallait, au moment où il fallait, comme il fallait. Et quand il lui a répondu, il lui a mis 3 claques avec 3 paroles. C'est la parole de Dieu qui gifle. D'accord ? Ce n'est pas nos capacités, nos compréhensions, nos dons. C'est la parole de Dieu qui répond là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont redressé. Et c'est ça la clé. Ils l'ont redressé, Dieu a dit, ah, une leçon, ça ne leur a pas servi. Ils redressent et là, ils se cassent en 1000 morceaux. Mais la traduction hébreu est magnifique parce que quand il est étendu, couché, sans pouvoir se mouvoir, ça veut dire qu'il ne peut plus rien faire. Il n'a plus la capacité, parce que le verbe giser, c'est difficile à conjuguer, giser, ça veut dire... On est comme en train de mourir. On ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas plus voilà, vous m'avez compris dans le sens que ça veut dire. Ni se mouvoir, plus aucun pouvoir. Vous imaginez, quelqu'un qui gise au sol n'a plus de pouvoir. C'est-à-dire, vous le regardez, ben oui, tu as eu ce que tu méritais. C'est comme ça que l'on doit observer et lire la parole de Dieu. C'est pour ça que je me suis dit, mais Seigneur, mais ben maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi Goliath se relève assez souvent, parce qu'on combat toujours Goliath hors de la présence de Dieu, avec nos capacités, nos compréhensions, nos facultés, et Pourquoi on est hors de la présence de Dieu? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'admet pas. Et il dit, je ne rentrerai pas au combat avec toi parce que tu n'as pas réglé tel problème. C'est pour ça que quand ils ont pris Israël, l'arche de l'Éternel, et qu'ils l'ont amené au combat contre les Philistins, Dieu a dit, oui, l'arche est là, mais je ne bougerai pas. Hein, parce que vous n'êtes pas en mesure de vivre dans la sanctification. Il y a ça, ça et ça. Et dans la parole de Dieu, vous en voyez plein de choses. Ils ont voulu combattre le géant d'Anak, mais il y avait le péché d'Acan, quand Moïse... Et le péché d'Acan, non, c'est Josué. Il lui dit, mais pourquoi on n'a pas remporté la victoire? Mais parce qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui a pris un interdit, qui a volé quelque chose qui était interdit. Donc vous croyez que moi je plaisante, dit le Seigneur, quand je dis pas d'interdit, pas d'interdit. Bah, attends, c'est un peu d'argent et un manteau, c'est ça, je crois, je ne me rappelle plus ce qu'il avait. Il dit, mais et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est sauvage, Dieu est terrible. Hein, vous allez dire, toute la famille est passée, hein, ils sont tous morts. À cause du Père. Écoutez, hein, à cause du Père, toute la famille a subi le problème. Or, souvent, à cause de l'autorité dans la maison, les enfants subissent les conséquences. Samuel 5:6-7. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdoniens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous car il apesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. » Parce qu'en fait, elle est restée l'arche. Mais quand ils ont vu ce problème, ils ont dit « C'est pas grave, on va reconstruire une statue. » Parce que l'ennemi, lui, se multiplie. À travers les démons, à travers les esprits impurs, à travers le péché. Et il dit, mais tant que Dieu sera au milieu de nous, on va avoir des problèmes. C'est ce que l'ennemi dit. On rentre dans le côté spirituel. Quand l'ennemi voit qu'un des enfants de Dieu prend autorité dans la présence de Dieu, qu'il demeure saint et irréprochable, qui c'est qui fuit? Je vous garantis que ce n'est pas vous. Parce qu'il voit qui? Il voit le Christ en nous, la lumière qui chasse les ténèbres. Il dit, oulala, on a déjà pris des claques lorsqu'il est descendu le deuxième jour au tombeau, qu'il a récupéré les clés, qu'il nous a un peu nargués en disant, vous allez voir ce qui va vous arriver le jour du tribunal. Il dit, là, si encore on voit des chrétiens dans l'église du tabernacle qui se lèvent dans la force du Saint-Esprit parce qu'ils ont reçu la révélation du Saint-Esprit et qui commencent à nous faire trembler, je vous garantis que quand Dieu se lève, ses ennemis tremblent. Mais on a encore perdu cette notion. Quand Dieu se lève, en nous, l'ennemi tremble, mais l'ennemi, il tremble parce qu'il est en nous. Il y a un problème. Vous savez, la cohabitation entre la chair et l'esprit. Quand vous avez des pensées contraires, tu disais à Alain qu'il y avait des pensées qui t'assaillaient. Bon, il a deux situations où il laisse les pensées l'assaillir et elles pénètrent. Elles pénètrent, les pensées. Donc, elles rentrent en nous. Hein. Et une fois qu'elles sont rentrées en nous, alors là, je vous garantis que ça frappe, hein. Mais si on dit toute pensée est amenée captive à l'obéissance de Christ, là c'est différent parce qu'on se lève et l'ennemi dit « Oula, la forteresse que je vois est un peu plus puissante que celle que je croyais. On m'avait dit qu'il était fébrile, qu'il était fatigué, qu'il était découragé, mais je vois qu'il se lève aussi vite que Dieu lui demande de se lever. » On va aller voir ailleurs. C'est une prise de conscience. Or, la prise de conscience, elle défaille aujourd'hui au milieu de nous. Je parle à moi-même. Parce qu'on ne prend pas conscience que le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de terrible pour l'ennemi. Jamais. Autant déjà, la plus grande défaite, c'est quand le Seigneur l'a vaincu à la croix. Mais il a dit, bon, le Seigneur, il est tout seul. Mais maintenant, il se multiplie à travers tous ses enfants. Parce que Christ, chrétien, ça veut dire au moins. Nous, on dit, ah oh ben, je suis chrétien. N'importe qui dit, je suis chrétien. Vous connaissez plein de sectes qui se disent chrétiens, mais la traduction quand même. De chrétien, ça veut dire Christ. Christ, ça veut dire quoi? Oin. Mais ça veut dire aussi Messie. Oh. On n'est pas que des chrétiens. On est des oins de l'Éternel, des Messies, si je traduis bien. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est oin, c'est quelqu'un qui a Dieu en lui pleinement. C'est-à-dire que il faut qu'il croisse et que je diminue. À un moment donné, tu n'existes plus, il n'y a que le Christ en toi, tu ne sers que d'enveloppe. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un temple? C'est une maison. On s'en moque de la maison, c'est celui qui habite qui est important. Alors Dieu ne se moque pas de nous, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'il a besoin d'un temple, il a besoin d'un lieu où habiter. C'est dans Jean 16 ou Jean 14. Moi et le Père, nous viendrons chez toi et nous ferons notre maison chez toi, notre demeure chez toi. Ça veut dire que s'il nous a choisis comme le temple pour y habiter, je vous garantis qu'il va s'en servir correctement et c'est agréable à vivre pour Dieu. Si ça ne l'est pas, il va faire des réparations. Il va dire ça, on fait sauter ce mur, on fait sauter ça, on va enlever ci. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ils ont reconnu que tant que l'arche de Dieu était au milieu d'eux, les Philistins, ils étaient en défaite. Tant que l'arche de Dieu est dans notre vie et que nous demeurons dans l'arche de Dieu, il ne peut rien nous arriver. Ça, c'est une vérité. Elle résout tout. Qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu ? Si tu comprends que l'arche de l'Éternel est en toi, où que tu sois, tu es vainqueur. Où que tu sois. Ça est résumé dans Romains 8. La présence de Dieu, si tu es conscient que tu es clean dans la présence de Dieu, saint et irréprochable, irréprochable, ça ne veut pas dire à peu près, eh bien, où tu te trouves, il peut y avoir tous les sorciers de la planète, vous serez exactement dans l'attitude de Daniel, qui va dans un lieu où il n'a jamais rien demandé à cause du péché de leur père. Daniel a subi les conséquences des péchés des rois et de leur père. Il a été déporté en esclavage, mais au lieu de râler, Daniel, au lieu de râler avec ses trois potes, il n'a pas dit « Mais Seigneur, ce n'est pas de notre faute, on n'y est pour rien, c'est la faute de mon père, de ma mère, de mon oncle, de ceci, et nous on en subit les conséquences. » Non, t'inquiète, je t'ai choisi pour que je puisse me glorifier à travers toi. Attends avant de râler, je vais t'expliquer que tu vas être un instrument tellement puissant que tout le monde te sera soumis. Or, plusieurs fois, je m'amuse à dire quand je prêche, à droite, à gauche, qui voudrait être le chef de tous les sorciers de la terre ? Personne dit, oh là là, ben non, ça ne va pas. Moi, chef de tous les sorciers, pourtant c'est ce que Dieu dit à Daniel. Il avait sous son autorité tous les sorciers, les magiciens et tout ça, tout. Et ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient comme gisants sur le sol. C'est pour ça qu'ils ont cherché à détruire constamment Daniel. Pourquoi ils se sont acharnés sur Daniel ? Parce que tant que Daniel était là, la présence de Dieu, il gisait sur le sol et il ne pouvait rien faire. Ils l'ont foutu avec les lions et il n'est rien arrivé. Ils ont toujours été vaincus parce que tant que la présence de Dieu est en toi, l'ennemi le voit et le sait. Mais est-ce qu'on en est conscience que l'ennemi voit qui est en toi ? C'est ça le souci. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et quand, vous savez, je me bats sur quelque chose et je fouille dans les traductions et tout, on entend souvent dire, il y a l'onction prophétique, l'onction apostolique, l'onction de grâce, l'onction de ci. Je dis, Seigneur, mais c'est marqué où ça dans la Bible ? Il y a une seule onction. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et il y a des fonctions liées aux onctions. Mais aidez-moi à trouver un verset dans la Bible qui me dit, il y a l'onction prophétique. Ça n'existe pas, à moins que je me trompe. Mais il y a une fonction prophétique. D'ailleurs, les Lévites, c'était des fonctionnaires. Ils fonctionnaient pour Dieu. Mais il y a une onction, celle du Saint-Esprit. C'est pour cela, encore une fois, que l'ennemi dit, tu n'as pas d'onction, Jérémie, donc ferme-la. Et toi, tu vas dire, oui, c'est vrai, je n'ai pas d'onction ainsi, je n'ai pas d'onction ça, j'attends qu'on me mette à part. Or, le Saint-Esprit, il est en toi ? Oui, Jérémie. Donc forcément, tu es loin. C'est Jésus qui le dit, Luc 4. Car le Seigneur éternel m'a loin pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les captifs, délivrer les autres. C'est exactement Marc 16. Le Seigneur m'a loin. C'est Jésus qui le dit. Sans onction, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Mais je vous dis que le Saint-Esprit ne cohabitera jamais avec l'impureté, jamais avec le mensonge, jamais avec le compromis, jamais avec les fausses alliances, jamais. Mais le seul problème, c'est que nous, on pense que l'homme ne nous voit pas, c'est un fait. Mais comme Dieu est omniprésent, omniscient, il voit tout partout et il connaît tout, alors soyons honnêtes, sérieux avec le Seigneur. Maintenant, relation Dagon et Goliath. 1 Samuel 17,49. Il mit la main sur sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin du front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin et il tomba le visage contre terre. La première fois, on voit que Dagon, lui, pareil, il tombe face contre terre, mais il n'est pas mort. Il n'est pas en train de giser, ça dit, ce verbe est compliqué là. D'accord ? Il a encore son autorité, il est là, il n'a pas été fracasse. C'est le verbe. Non, giser ? Gire ? Faites-moi grâce, oui. Gésir, voilà. Moi, j'ai un problème avec ce. Bon, on ne va pas se prendre la tête, les frères, vous m'avez compris. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, la première fois, il gisait sans conséquence. La deuxième fois, il gisait la tête brisée et les deux bras brisés. C'est marrant. Vous savez, vous coupez la queue d'un lézard et il continue à courir, tu sais. Ou coupe la tête d'une poule et ça continue. Ça bouge quand même. Même quand, en fait, spirituellement parlant, ce que Dieu a demandé de faire à David, c'est pas n'importe quoi. C'est David, la première fois, il lance la fronde. Il tombe. Normalement, il dit, la première fois, il lance la fronde avec une pierre, et il tombe par terre. Dans certaines directions, il dit, il est déjà mort. Il tombe mort. C'est ce que dit traduction. Pourquoi, étant mort, il y va, il prend sa propre épée et lui coupe la tête, s'il est mort? Parce que c'est ce que l'ennemi nous fait croire. C'est bon, tu m'as eu. C'est bon, tu m'as eu, je reconnais, tu es plus fort. Et puis tu dis, bah ça y est, j'ai gagné. Et dès que tu as tourné le dos, il se relève. C'est pour ça que David, le Seigneur lui dit, parce que David est envoyé par Dieu. Il était loin. Et David prend la propre épée de Goliath et lui coupe la tête avec sa propre arme. C'est-à-dire que, j'en parlerai plus demain, mais si l'ennemi vient avec le mensonge, comment tu combats le mensonge? Par la vérité. Donc, il faut comprendre que beaucoup ont vu Goliath tomber. Et on dit, j'ai vaincu Goliath. Sauf que pour montrer au monde entier que Goliath était mort, qu'est-ce qu'a fait David? Il a fait quelque chose qui paraît être atroce. Qu'est-ce qu'a fait David pour montrer qu'il a pris la tête? Et vous savez où c'est qu'il est allé? Vous savez où c'est qu'il est allé, David? À Jérusalem. Il y avait au moins 20 bornes, hein. Ou 30 bornes entre le lieu de la bataille et Jérusalem. Il n'est pas été voir l'armée, hein. Il a pris la tête et il est allé à Jérusalem. Or, Jérusalem n'était pas encore la capitale. Jérusalem, ce n'était pas le lieu. Pourtant, Dieu lui dit, va à Jérusalem, parce que là, je vais y remporter une grande victoire dans des années qui viendront. Vous comprenez que déjà David savait qu'à Jérusalem, Christ allait remporter la victoire sur Dagon, sur tous les Goliaths à la croix. C'est pour ça. Pourquoi prendre ça? Ça vous étonne, on dirait. Ça vous étonne, mais on va le lire demain. Ça vous étonne. David a pris la tête et il est allé à Jérusalem. Merci. Merci. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Comme ça. Mais écoutez bien, la parole de Dieu, elle ne se lit pas entre midi et 14 heures, une banane et une orange. Je vais vous dire quelque chose. Quand on discute avec le Saint-Esprit et que vous vous mettez en avant en disant, Seigneur, il y a des choses qui ne collent pas, montre-moi-les. Ça va être terrible ce que je vais vous dire, mais ça m'appartient. Aujourd'hui, si on était 100 ans en arrière, qu'il n'y avait plus la technologie d'aujourd'hui, pas de télévision, pas de radio, donc pas de smartphone, rien du tout. Rien. Les gens se retrouvaient à l'église, ils avaient un petit livret où il y avait des chants. Et ils les apprenaient pratiquement par cœur. Aujourd'hui, on va se soulager en disant « J'ai eu un beau moment de louange en ayant écouté YouTube, 3 heures de louange. » Or, tu ne les as jamais chantées. C'est ce que Saint-Esprit dit. Tu écoutes, mais tu ne chantes pas. Ce n'est pas toi qui m'adore, c'est la cassette. C'est YouTube qui m'adore, enfin, façon de parler. Mais toi, tu ne fais rien. Mais par contre, après, tu dis « J'ai passé 3 heures dans la présence de Dieu. » Quand vous entendez ça de la part du Saint-Esprit. Et moi, là où j'étais repris, dit « Oh, Seigneur, le message était excellent. » Oui, mais moi, je l'ai donné à cet homme qui correspondait à un besoin. Mais toi, est-ce que tu as lu la parole de Dieu? Parce que moi, j'aurais pu te parler aussi bien que j'ai parlé à lui. Alors, c'est facile d'aller écouter. Oh là là, j'étais dans la présence de Dieu. Les frères, j'ai écouté un message. Oui, mais tu l'as écouté. Tu ne l'as jamais reçu. Ça, c'est la tromperie, et on verra ça demain de la part de l'ennemi, te faire croire. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on écoute un message, on ne lit plus la Bible. D'ailleurs, c'est tellement simple que vous entendez des messages qui sont tellement débiles qu'on dit « Amen ». Après, je dis « Mais d'où c'est dans la Bible ?» Dernier, un truc que j'ai entendu, il est dit que par la suite, Thomas, le disciple de Jésus-Christ, est allé baptiser les 3 rois mages. Et la personne qui a dit ça, c'est pas je tairai le nom parce que j'en ai pris la figure. Mais je dis, pour vous faire comprendre, Thomas, un apôtre, par le passé, après, est parti et il a baptisé les 3 rois mages parce qu'il faisait référence qu'il venait de l'Iran actuel. C'est l'actualité. Déjà, il n'avait pas de roi, mais baptiser quelqu'un qui était mage à l'époque de Jésus aîné, il devait être âgé, hein, parce que 33 à la mort de Jésus, plus le temps que l'apostolat de Thomas se fasse, et ils avaient quel âge, les mages? Ils devaient avoir plus de 100 ans. Mais quand vous entendez ça, et que j'entends des amen et des amen et des amen, vous dites, mais ils ne regardent pas la parole de Dieu. C'est ça, le piège de l'ennemi. C'est pour ça que Goliath se relève. Goliath se relève. Donc, le temps passe, et je vais bientôt finir. Tu veux détruire Goliath? Là, je l'ai écrit en gros. Tu veux détruire Goliath? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, là, maintenant, on peut y aller. Il faut détruire Dagon. C'est lui, le problème. S'il n'y a pas de Dagon, ils n'ont plus de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont renvoyé l'arche. S'il n'y a plus de Dagon, qui va servir Goliath? Goliath, il va adorer qui et servir qui? Il n'a plus de boss. Jésus a réduit à néant le Satan à la croix. Les démons ne sont efficaces que si vous leur donnez de la crédibilité, puisque leur chef, son compte a été réglé. Vous vous en souvenez quand même que c'est quand même ce qui s'est passé à Pâques, que Dieu a vaincu Satan et la mort, donc il l'a réduit à néant. On est OK, je ne dis pas de bêtises. Donc, il a quand même des démons ou des esprits impurs, des anges déchus, qui font leur job, mais ils font leur job autant que toi, tu leur donnes de la crédibilité. C'est exactement pareil pour Goliath. Tant que Dagon vit, Goliath puise sa force en Dagon. Si tu crois que le diable a toujours la même puissance que d'avant la croix, c'est clair qu'on a des problèmes. C'est clair. Et on peut combattre, chasser les démons et ils reviennent. On chasse et ils reviennent. On chasse et ils reviennent. Là, le problème. Il y a des prises de conscience dans notre vie qu'il faut qu'on l'on accepte et qu'il soit une bonne fois pour toutes dans nos vies. Tu veux détruire Goliath, il faut que tu détruises Dagon. Tu ne peux pas te présenter devant l'Éternel dans le lieu très saint si ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu. Si ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu. Alors, encore une fois, il y en a un qui ne veut surtout pas que tu la lises. Parce que c'est la parole de Dieu qui te reprend. Puisque c'est Jésus, la parole de Dieu. Un chant, un cantique, un message ne te reprendra jamais aussi efficacement que te reprend la parole de Dieu. Je vous le garantis. Pourquoi, quand j'entends que les gens disent « je n'arrive pas à lire la parole de Dieu, je m'endors, je m'ennuie, je ne la comprends pas ». Mais regarde la source de ce problème. C'est qu'il y en a un qui ne veut surtout pas que tu la lises. Alors si il ne veut surtout pas que tu la lises, c'est que c'est important. Et toi, tu vas donner comme justificatif « ah ben, je suis fatigué ». Ah, le matin, je n'arrive pas à lire la parole de Dieu parce que la nuit est difficile. Tu rentres du boulot. Ah ben non, je rentre du boulot, je suis crevé du boulot. Et puis, il n'y a jamais le temps. Mais si tu dis Saint-Esprit, moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de ta parole, Christ. J'ai besoin que tu t'exprimes à travers moi. J'ai besoin que le royaume de Dieu soit manifesté à travers moi. J'ai besoin de tout ce que tu es. Forcément, il y a un désir qui naît en nous. Et fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais fais d'abord de l'Éternel ton délice et il te donnera la victoire sur ceux qui te combattent. Mais si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, tu n'auras jamais ce que ton cœur désire. C'est un cycle. Et encore, on va proclamer la parole en disant « j'ai reçu une prophétie, je proclame ma parole ». Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas proclamer la parole de Dieu sous forme de prophétie, parce que seul l'Esprit de Dieu parle à travers toi. Sinon, ce serait facile. Je prends la Bible. Le Seigneur a dit, « En mon nom, vous guérirez les malades. » Allez, dégage, maladie. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si toi, tu n'es pas clair, tu n'es pas saint et irréprochable, et si en face, derrière, ça rigole, il y a deux problèmes. Deux problèmes. C'est pour ça que les Goliaths se relèvent facilement. Deux problèmes. Dans cette vallée des Térébintes, Dieu nous a déjà donné rendez-vous. Il nous a déjà donné rendez-vous. Ce n'est pas qu'il va, il nous a déjà donné rendez-vous. Mais on ne veut pas y aller. On ne veut pas y aller dans cette vallée. Parce qu'on voit déjà le Goliath de loin. Mais bon sang, tu vois le Goliath? Mais tu ne vois pas Dieu? C'est quoi ton problème? Un problème de vue? Ou un problème de foi? Si tu vois Goliath, forcément tu vois Dieu. Mais qui choisis-tu? Alors, Dieu nous a déjà donné rendez-vous, donc cela veut dire qu'il y est présent. Et il veut que nous soyons conscients de cette situation. L'Église du Tabernacle, dont je fais partie, si nous n'avons pas conscience de la situation, nous verrons toujours Goliath sans jamais voir loin de l'Éternel. Et nous cherchons loin de l'Éternel. Il est où, loin de l'Éternel? Et à un moment, tout le monde disparaît, il ne reste plus que toi. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Oui, mais c'est toi, loin de l'Éternel. Pas besoin des autres. Mais non, je ne peux pas tout seul, j'ai besoin de mes frères et sœurs. Je ne vais pas m'en sortir, je ne sais pas faire. Je ne sais pas combattre. Tu n'as pas besoin de tes frères et sœurs. Je suis là. Je suis là. Et alors, il dit la même chose à l'autre frère et à l'autre sœur. Puis en même temps, il dit la même chose à tout le monde. « Ah, oh, vous savez ce que le Seigneur m'a dit ?»« Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Il m'a dit « Je n'avais pas besoin, entre guillemets, de toute l'Église. Il est avec moi. »« Ah, oh, mais c'est marrant, il m'a dit la même chose, le Seigneur. »« Ah, oh, bah, tiens, il m'a dit la même chose aussi. » Il n'était qu'un. Même cœur, même âme. Acte 4. Et l'Église trembla. Parce qu'ils avaient le même esprit. Et Dieu dit, Dieu est là, je suis là, te dit Dieu. Il a encore écrit parce que ça répondait, ça résonnait. Dieu est là et je suis là, te dit Dieu. Goliath marche dans la vallée loin de Dieu et ceci pendant 40 jours, matin et soir, car personne n'est en mesure de le défier. Posez-vous la question. Pourquoi, pendant 40 jours, matin et soir, 80 fois, il se présente pour défier? Mais s'il était aussi puissant que ça, Il y a déjà longtemps qu'on aurait explosé, l'église du tabernacle. Réfléchissez. 80 fois, aussi grand et balèze qu'il était, 3 mètres de haut, qui faisait peur à tout le monde. S'il était aussi puissant, on serait mort déjà. Il y a bien quelque chose qui se passe, que lui voit, mais nous on ne voit pas. Mais c'est ça le problème. Eux, ils le voient. Ils voient le Christ en nous, mais nous on ne voit rien. Oh, il y a un problème. Alors, Goliath n'a que le pouvoir de menacer Israël verbalement jusqu'à l'arrivée de loin de Dieu. Vous savez que l'ennemi n'a que la parole. Quand il a été vaincu à la croix, la seule chose qui lui reste, c'est la parole. C'est pour ça qu'il attaque les pensées et tout, par la parole. Mais il ne peut plus agir, il est lié. Donc, on va bientôt finir. Josué 1.5. Et là aussi, il y a quelque chose qui va expliquer ce que je vais parler de la présence de Dieu. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Parole de Dieu à Josué. « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. » Alors, vous savez ce que Dieu a fait avec Moïse. Donc, j'aimerais bien, moi, avoir vécu ce qu'il a vécu Moïse. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ça, ce sont des promesses de Dieu. Ça, ce sont des vérités de Dieu. Ça, on peut les graver dans notre cœur. Ça, il faut que ça vive dans notre vie. Ça, là. Ça, c'est des vérités. Ça, il ne faut pas aller dire aux autres « Je ne suis pas bien. » Alors que Dieu te dit « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » D'accord ? D'ailleurs, une question. Pourquoi Dieu a choisi Josué pour conduire le peuple de Dieu et pas Caleb ? Pourtant, ce sont les deux seuls espions qui ont fait un compte-rendu positif. Il n'y a aucune différence entre Josué et Caleb quand ils sont revenus avec les 12 espions. Pourquoi Josué a été choisi ? Vous savez pourquoi ? Non, il a fait. Ou Dieu a permis qu'il vive quelque chose que Caleb n'a jamais vécu. Et ça, Exode 24-13. Il est dit, Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Si vous lisez tout le conseil, tout le contexte là, ça veut dire qu'en fait, Josué était avec Moïse dans la présence de Dieu. Et il entendait tout ce que Moïse entendait. Il n'y a qu'à un moment donné, quand il y a les tablettes qui les solent, pendant 7 jours, Moïse. Mais pendant 40 jours, Josué servait Moïse. En fait, il servait Dieu à travers Moïse. Il était dans la présence de Dieu. Il savait, parce qu'il était jeune à ce moment-là, il avait 20 piges. Il avait 20 ans, Josué. Et il était dans la présence de Dieu constamment. Il avait eu cet honneur de monter sur la montagne de Dieu où celui qui touche la montagne mourait. Il est dit, personne ne pouvait s'approcher sinon il mourait. Et Dieu a dit à Moïse, amène avec toi Josué, parce qu'il savait ce qu'allait se passer 40 ans plus tard. Il était dans la présence de Dieu dès son jeune âge. Caleb, non. Caleb, c'était un guerrier. Et le problème, c'est qu'on fait une différence entre les guerriers et les adorateurs. Or, un guerrier et un adorateur, c'est la même chose. Mais on dissocie, parce que certains enseignements le font. Or, quand Dieu dit « Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité », en esprit et en vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous parle dans la vérité, selon la parole du Christ. Et Josué entendait Dieu parler, c'était profond dans son cœur. Et quand il a pris la relève, il a dit, mais quand même, Moïse, et Dieu lui dit, oh, Moïse est mort. C'est bon, ça y est, tu es resté 40 ans dans ma présence, c'est bon. Vas-y, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, jamais tu seras tout seul. Et pour finir, il donne encore une parole à l'église du tabernacle, le Seigneur, Ésaïe 54-17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Vous savez ce que ça veut dire en justice ? Vous amenez devant les tribunaux, vous dénoncez, vous condamnez, vous culpabilisez, d'accord ? Tu, contre toi, tu la condamneras. Ça veut dire que tu condamnes les personnes même qui te jugent. Dans l'esprit, hein, elle n'est pas... D'accord ? Et comment on condamne l'ennemi ? En faisant front par la parole de Dieu. Il est écrit, tu n'adoreras que Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'héritage, Vous savez ce que c'est qu'un héritage? C'est quelque chose que l'on a droit légalement de récupérer. Un héritage. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu, mais il faut que tu sois, que tu comprennes que toute arme, c'est-à-dire tous les Goliaths qui viendront contre toi, fera sans effet. C'est la situation de Dagon qui, chaque fois qu'il se tenait dans la présence de Dieu, bah, mort. Mais si le petit virus du rat qui vient dans bateau et qui commence à te faire flipper parce qu'on dit que ça sera pire que le coronavirus et que j'entends « qu'est-ce qui va nous arriver ?» Je parle de chrétiens. Je dis « Mais Seigneur, mais je comprends. Mais je comprends. Ça n'existe pas encore. On ne sait même pas ce qui se passe. Et déjà, le futur, la future pandémie sera terrible. » Peut-être pour ceux qui croient pas, elle sera terrible. Pour ceux qui croient pas, elle sera terrible. Mais pour ceux qui croient, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Ça veut dire que si quelqu'un vient te dire fais gaffe, mon pauvre, le virus qui vient, tu vas morfler. Et toi, tu dis au nom de Jésus, le virus là, il est déjà mort. Moi, j'ai fait ça devant vous, au temps du coronavirus, quand c'était la Sainte-Seine, j'ai dit, le coronavirus passera par moi, mais il mourra en moi. Ça s'est toujours passé comme ça. Parce qu'il y avait un décret de Dieu. Si tu dis, et tu donnes du crédit à quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est ça le mensonge, et que tu commences à flipper, mais c'est bon, tu n'as pas un Goliath qui s'est levé, c'est toute la garnison. C'est une promesse de Dieu à tous ses serviteurs qui marchent par la foi en étant saints et irréprochables. Ce que je voulais dire de la part du Seigneur, c'est que moi, j'ai compris pourquoi les Goliaths se lèvent, pour ma propre vie. Et c'est ma responsabilité de les laisser en vie ou pas. Et ça ne sera jamais celle de ton voisin, de ton frère, de ta sœur, et surtout pas celle de Dieu, parce que Dieu nous parle. Maintenant, si l'Église du Tabernacle doit voir toutes ses promesses annoncées se relever, et tenir ferme, je vous garantis que ça ne se fera que par la foi, parce que c'est Dieu qui suscite cette foi en nous. Je ne vais pas y revenir là-dessus, mais je dis simplement que la situation, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. La plus grande tristesse chez un chrétien, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est ce que l'ennemi veut, nous tenir dans l'ignorance. Mais ne lis pas la Bible, reste dans l'ignorance. Écoute simplement ce que disent les responsables, et dit oui, amen à ce qu'ils te disent. C'est bon. Ils sont loin, eux, pas toi. C'est ça le souci. Mais le souci premier, c'est de se tenir saint et irréprochable dans sa présence. Dans cette situation, l'arche de l'Éternel sera en toi. Et je vous dis, frères et sœurs, et je propose, ce n'est pas une histoire de réputation ou de... Là, je risque rien, c'est la parole de Dieu qui dit. À celui qui met en pratique ma parole, dit le Seigneur, je me glorifierai. Et c'est parce que quand Dieu dit je me glorifierai, vous savez ce que ça veut dire le mot glorifier, parce qu'on le chante maintenant tellement comme ça. Vous savez ce que ça veut dire glorifier Dieu? C'est-à-dire que vous le mettez en telle valeur à travers ce que vous faites, que toute l'humanité voit ce que Dieu est en train de faire avec toi. Et toute la gloire vient à Dieu. Le mot gloire, c'est quelque chose qui est, je crois que c'est le mot le plus fort pour élever quelqu'un. C'est le mot le plus fort pour élever quelqu'un. Et Dieu a dit, Jésus a dit dans Jean 17, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Mais il y en a un qui te dit, « Oui, tout le monde, sauf toi. » Parce qu'il y a 30 ans en arrière, tu as fait ça à ta fille ou ça à ta mère. Mais pourtant, j'ai réglé le problème. Mais ça ne fait rien, tu l'as fait quand même. Et on remet en question ce que Dieu nous a pardonné et nous le remet sur le tapis en disant « T'es sûr de ce que tu dis? T'es sûr que Dieu t'a réellement pardonné ?» Et la culpabilité vient. Frères et sœurs, la Pentecôte, elle est descendue sur 120 personnes. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Jésus ne leur a rien dit. Il a dit simplement « Le Saint-Esprit viendra ». Il n'aura pas dit que c'était sous forme de langue de feu. Il n'aura pas dit qu'ils allaient avoir la puissance des dons et des ministères. Il n'aura pas dit tout ça, parce que c'est après, pendant les 40 jours d'enseignement, qu'il y a eu en mon nom, vous guérirez les malades, ceci et cela. Eux, ils ont entendu ça de la part de Christ d'enseignement, mais ils n'avaient pas la compréhension du Saint-Esprit de cette puissance qu'ils allaient avoir. Tant que le Saint-Esprit n'était pas là, même si Jésus leur disait, vous guérirez les malades en mon nom, quand Jésus était vivant, il le faisait, parce que Jésus était là. Quand Jésus est parti, il dit, il est préférable pour vous que le Saint-Esprit vienne, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir cette puissance, et vous ne pourrez pas faire ce que l'Église doit faire en mon nom. Maintenant, Saint-Esprit, parle au cœur, comme tu as parlé pendant tout ce temps, que dans ce lieu, Père, qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs qui prennent conscience de ce que c'est que demeurer dans ta présence. Demeurer, c'est de ne jamais en sortir. Père, je veux demeurer en toi et ne jamais en sortir. Tu l'as dit, Jésus et le Père feront une demeure en toi et toi en eux. Père, que ce soit une réalité. Mais nous savons les conditions que tu exiges depuis la fondation des temps, lorsque tu nous as élus, choisis pour la vie, tu as dit, je cherche des serviteurs loin qui soient saints et irréprochables afin de détruire tous les Dagons et les Goliaths qui se trouveront sur leur chemin. Père, par le Saint-Esprit, comme tu t'es révélé avec puissance, Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, et que Pierre et les 11 ont pris conscience de ce qui se passait, eh bien, dès les jours qui ont suivi, ils ont vu l'infirme, ni or ni argent, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ils n'ont pas regardé à l'esprit religieux, ils n'ont pas regardé aux hommes juifs autour, ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont agi avec puissance et vérité. Seigneur, à nouveau, que nous puissions prendre conscience que l'ennemi nous a tenus dans l'ignorance malgré les promesses. Il nous a fait croire que l'on pouvait rester comme ça, tranquille, et que c'était une bénédiction. Non, non, chaque jour tu rajoutais à l'Église ceux qui étaient sauvés, et les murs tremblaient, parce qu'il y avait la crainte de Dieu au milieu d'eux, parce que tu étais présent. Les vérités d'il y a 2000 ans sont les mêmes aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous puissions prendre conscience réellement que tout esprit contraire ne pourra jamais tenir devant ta face. Parle au cœur. Parle au cœur, maintenant, dans ce soir, dans la nuit, afin qu'il y ait des restaurations, des repentances, Père. Qu'est-ce qu'une repentance ? C'est simplement d'accepter qu'il y a des choses que tu n'agrées pas et que tu veux corriger pour que nous restions en vie. Seigneur, je t'en supplie, les promesses sont oui, amen. Tu as dit que tu ferais de cette église un lieu où il y aurait la multiplication du pain, du vin et de l'huile. Et nous savons ce que ça veut dire. Nous savons la puissance de ces paroles. Tu l'as dit, je rebâtirai sur ces anciennes ruines. Alors oui, si aujourd'hui le tabernacle est une ruine, rebâtis dessus. Reconstruis avec force, avec des hommes et des femmes, avec des vaillants guerriers qui veulent œuvrer pour ta gloire et seulement pour ta gloire, afin que beaucoup viennent au salut. Et que beaucoup de fils et de filles prodigues reviennent. Père éternel, qu'à nouveau on sache qu'il y a des miracles et des prodiges dans ce lieu, sans que personne ne mérite quoi que ce soit, simplement parce que l'onction est là, simplement parce que nous le voulons et parce que nous le croyons. Moi, je veux faire du bruit dans les ténèbres. Parce que je veux que l'ennemi m'entende. Je veux qu'il sache que je suis vivant. et que nul ne tiendra contre moi. Je veux que mes frères et sœurs, Seigneur, sachent que tu vis en eux et que tu es le Tout-Puissant. Que l'ennemi tremble, ne serait-ce que lorsque ton nom est proclamé avec justice. Lorsque nous adorons ensemble en esprit en vérité, que nous ne fassions qu'un, un même cœur, une même âme. Mais en croyant que tu es Dieu l'Éternel et que si tu nous as choisis, c'est pour vivre l'éternité à tes côtés. Ô Éternel, montre le Dagon qui subsiste. Montre celui qui veut prendre ta place par le mensonge, la tromperie ou autre. Montre, car nous savons, Seigneur, que les temps sont difficiles et que l'Église est rentrée en jugement. On a crié souvent au loup sans qu'il y soit, mais maintenant le loup est là. Et il rentre. Elle veut faire du carnage. Et tu l'as dit dans ta parole, les mercenaires, les loups rentrent dans la bergerie pour détruire et dévorer. Mais seuls ceux qui connaissent ta voix te suivent. Sachons écouter ta voix, Seigneur. Sachons écouter ta voix. S'il y a des frères et sœurs qui prennent conscience, honnêtement et sincèrement, que Dieu n'était pas maître de leur vie. C'est ça, la remise en question, et qui permet à Dieu de se révéler. Et c'est cette situation qui va permettre à Dieu de détruire Dagon. C'est simplement de prendre conscience. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, mais que la peur, le découragement dominent dans votre vie, ça s'appelle un mensonge. Mais si tu prends conscience que le découragement, la peur, la crainte prend trop d'ampleur dans ta vie, c'est que Dieu n'a pas l'autorité dans ta vie. Ça, je vous le dis, de la part du Seigneur, si tu dis que tu vis dans le découragement, dans la crainte, mais que tu ne prends pas conscience que Dieu n'est pas l'autorité dans ta vie, tu ne feras jamais la puissance de Dieu se manifester. Dieu est le Tout-Puissant et il ne peut pas cohabiter avec le péché et Dagon. Ce soir, par le Saint-Esprit, après que Pierre eut parlé, les gens, les Juifs ont dit, que doit-on faire, Pierre ? Et il a dit, repentez-vous. La repentance, c'est super. Ce n'est pas une condamnation, c'est une délivrance. Écoutez bien, la repentance, ce n'est pas une condamnation, c'est une délivrance, une guérison. Et si vous voulez voir les chaînes tomber, repens-toi de ce que tu as mis ta foi dans les chaînes, de ce que tu as entendu, de ce qu'on t'a dit, et reviens à Dieu et à la parole. C'est mon appel et ça sera le seul appel de ce soir. Il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit dans la guérison. Elle se fera automatiquement si toi, tu reconnais que Dieu n'est pas le Tout-Puissant dans ta vie, parce qu'il ne partagera pas. Tu veux dire quelque chose, mon frère ?